don de Dieu est-il premièrement une lumière dans l'intelligence ou une motion, une attraction de la volonté ? C'est ce qu'on va voir, hein, on va le reprendre. Pourquoi est-ce que notre cœur est plus marqué par le péché originel que notre intelligence ? Parce que le péché est un acte de volonté. Quand on regarde bien la Genèse, d'abord parce qu'on a l'expérience que le péché c'est un acte de volonté, c'est un refus d'aimer. Et c'est un repli de la volonté sur l'intelligence. L'orgueil n'est pas une faute d'intelligence. La faute de l'intelligence, c'est l'erreur. Et l'orgueil, c'est pas de se tromper, c'est de choisir que notre intelligence soit la mesure de tout. C'est pour ça que c'est dangereux de découvrir son intelligence. Parce que c'est vrai que l'orgueil devient plus lucide. Il ne devient pas nécessairement plus fréquent, mais il devient plus lucide. Parce qu'on comprend effectivement à ce moment-là la capacité qu'a la personne humaine de se choisir comme maître du bien et du mal. Se choisir comme seule mesure de tout. Et donc comme le péché originel d'abord, et puis le péché tout court est un acte de la volonté, la nature humaine et la personne humaine est blessée dans sa capacité d'aimer. Pas dans l'intelligence comme telle, ce qu'on voit bien. On a beau être pêcheur, on peut être un grand mathématicien et être un pêcheur. Ce qui montre bien que l'intelligence garde sa capacité de rigueur, sa capacité de découvrir la vérité. C'est pour ça qu'on dira que par la volonté, par l'imaginaire par exemple, la paresse, c'est les conséquences du péché originel, c'est les conséquences de la fragilité de la volonté sur l'intelligence. Si on a un mal fou à développer notre intelligence, ça s'appelle la paresse. Qui est un péché. Mais c'est vrai, il faut le voir. On y pense peu, mais c'est vrai. C'est... Non, c'est un péché qui est conséquence de beaucoup d'autres. Parce que dans bien des cas, vous savez, quand on se pose la question, bon, on commet une faute parce qu'on n'a pas voulu voir. La paresse, ça crée un pli, c'est-à-dire qu'on évite le réel. C'est ça la paresse fondamentalement. C'est qu'on préfère sa manière de comprendre les choses à la réalité comme elle est. Vous voyez, on est dans les pantoufles de son imaginaire et la réalité a quelque chose de dur à premier abord. Le matin, quand vous vous réveillez, la lumière est dure. Après, vous apercevez que c'est bien plus beau que la nuit. Enfin, pas que la lumière de la nuit, mais que c'est bien plus beau que de dormir la lumière. Mais la première chose, c'est que c'est dur. Et donc, la paresse, c'est la propension... non pas naturelle, mais pécamineuse, à éviter le réel. Et qu'il y a plein de fois où on tombe dans les ornières parce qu'on a refusé d'être lucide. On n'a pas voulu voir que c'était une faute. Et puis que ça allait avoir des conséquences graves. Et quand on est dans le fossé, on se dit, voilà, j'avais pas vu. Est-ce que j'avais pas vu, ou bien est-ce qu'en fait j'ai évité de voir ? Et donc la paresse, c'est une faiblesse de la volonté. Mais qui déteint sur l'intelligence, c'est clair. On en devient bête à force d'être paresseux. Et donc l'intelligence comme telle n'est pas atteinte. Mais ça ne veut pas dire que je découvre pleinement la vérité tout en étant pécheur. Parce que je n'ai pas d'un côté mon intelligence et d'autre côté ma volonté. Et qu'au sens fort, je ne peux pas aller jusqu'au bout de la vérité si je n'aime pas. On voit bien sur une personne, on ne peut pas prétendre connaître quelqu'un si on ne l'aime pas. Parce que si on ne l'aime pas... Oui, l'aimer, c'est très bizarre ça. Mais au fond, il n'y a que l'amour qui supprime mes a priori. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Nous, on dirait, bon, si on aime quelqu'un, ça, on a plein d'a priori. Positif. Mais en fait, l'amour est la condition sine qua non pour avoir le courage de la réalité. Alors que si j'aime pas, je vais l'éviter, la réalité. Si je l'aime... je ne vais pas nécessairement l'accepter comme elle est, mais progressivement, j'aurai le courage de l'accepter comme elle est. C'est ça qu'au sens strict, c'est très difficile d'être objectif. C'est bien, du coup, les gens qu'on a du mal à supporter, avant de les juger, il faut se dire qu'il y a peu de chances qu'on soit vraiment dans la vérité. Parce que dès qu'on ne les aime pas, on déforme. Donc on peut dire, ils m'énervent, mais avant de porter un jugement objectif, il faut faire très attention. quant à la personne, hein, pas quant aux actes. Et c'est parce que l'intelligence comme telle n'est pas atteinte directement par le péché, que à cause, et puis à cause de la phrase de saint Paul et du livre de la sagesse, que l'Église a toujours affirmé que l'intelligence est faite pour découvrir l'existence de Dieu et la présence de Dieu à travers les réalités créées. Qu'elle en est capable, ce qui ne veut pas dire qu'elle y arrive. Peux-tu revenir sur le fait que dans la croyance, l'intelligence n'atteint pas la réalité, alors que dans la foi, elle l'atteint ? Oui, ça, c'est très important. Dans la croyance, encore une fois, ce que vous croyez, vous n'en avez pas l'expérience. Vous ne l'atteignez pas. Et au sens strict, la connaissance que vous en avez demeure une connaissance purement conceptuelle. Ou plus exactement, presque, vous faites une petite idée de ce qu'on vous dit. Et vous confrontez cette petite idée à ce que vous savez, ça vous semble cohérent, donc vous y croyez. Donc la connaissance que vous avez par la croyance n'est pas une connaissance immédiate. Elle ne vient pas directement de la réalité. Et elle est plus ou moins déformée par celui qui vous en parle. Vous avez qu'à acheter 10 journaux le matin de tendances politiques différentes sur un même événement, et vous verrez qu'il y a 10 manières différentes de raconter le même événement. Et qu'il y ait des chances que l'événement ait été tout autre chose que ce qui est raconté dans les 10 journaux. Et donc, par exemple, l'histoire, la science historique, c'est purement du domaine de l'opinion. Vous n'aurez jamais l'expérience ni de Napoléon Bonaparte, ni de Jules César, ni de la bataille de Waterloo, ni même, pour les plus anciens, de la guerre de 14. Donc on vit du côté de l'opinion, on y croit. La crédibilité objective est très forte. Mais quand vous lisez par exemple Georges Duby, qui est un historien éminent, ben, si vous êtes attentif et que vous avez d'autres instruments de lecture, vous apercevez que sa manière de lire le Moyen-Âge est complètement subjective. Elle est scientifique parce qu'il avance les textes, mais sa manière de lire est complètement déformée par son attitude vis-à-vis de la foi chrétienne. C'est important de voir que l'histoire, par exemple, vous voyez, elle est du domaine de la croyance. Se souvenir que je n'ai pas l'expérience de ce dont je n'ai l'expérience que tout de suite. Alors que dans la foi, ce qu'on va voir, on va essayer de reprendre, il y a une émigration de l'intelligence. C'est ça que je voudrais revoir. Dans la foi, Dieu par la parole de Dieu, par les sacrements, et on va voir par le mystère du Christ, s'adresse à mon intelligence. La parole de Dieu, elle a un contenu, une signification objective. Dieu me dit, si tu savais le don de Dieu. Ou bien, l'Ancien Testament me parle du serviteur souffrant. Ça a une signification objective. Un serviteur, je sais ce que c'est qu'un serviteur. La souffrance, je sais un peu ce que c'est. Donc je comprends ce que ça veut dire, un serviteur souffrant. Un don, je sais ce que c'est. Dieu, j'entrevois ce que c'est. Donc je comprends qu'il puisse y avoir un don de Dieu. Dans les sacrements, il y a des gestes. Il y a des symboles qui s'adressent à mon intelligence. D'accord ? Et donc je peux lire, je dois lire la parole de Dieu avec intelligence. Et je dois recevoir les sacrements avec intelligence. Mais ensuite, Dieu ne me parle pas, je ne peux pas réduire la parole de Dieu à cette signification humaine. Et Dieu appelle mon intelligence à travers ce qu'il me dit, à rejoindre le mystère dont il me parle, qui est lui-même, le mystère de la Trinité. Et donc, la parole de Dieu s'adresse d'une part à mon intelligence dans son fonctionnement humain, et j'ai à comprendre la richesse humaine de l'Évangile, la richesse humaine de la symbolique des sacrements, la richesse à la fois affective et intellectuelle.
Mais mon acte de foi consiste à accepter par amour, par la grâce de la charité, à ce qu'à travers ce que me dit, à travers ce que Dieu me dit, j'atteigne, je touche le mystère, qui est un jugement. Que j'atteigne le mystère lui-même, que j'en reste pas ce que Dieu me dit. Parce que dans la parole de Dieu et dans les sacrements, Dieu ne me parle que de lui. Et il ne m'en parle pas pour que j'y réfléchisse, il m'en parle pour que j'en vive. Et pour que mon intelligence en vive. Et l'acte de foi, ça consiste précisément à... Ça consiste en cet exode. J'ai traversé la mer Rouge. Et ce passage du contenu, de la signification humaine, si vous voulez, à la signification divine, le mystère, c'est la signification divine, se fait par l'amour. C'est à cause de l'attraction d'amour de Dieu sur moi que j'accepte que mon intelligence rejoigne à travers ce qu'il me dit, ce qu'il est. C'est pour ça que Dieu s'adresse à la fois à mon intelligence et à mon cœur. Vous voyez, j'irai. La parole de Dieu, c'est intelligent. Et les sacrements aussi. Les sacrements s'adressent à l'intelligence affective. La parole de Dieu s'adresse à la fois à l'intelligence affective et à l'intelligence dans ce qu'elle a d'objectif. Et donc, la parole de Dieu et les sacrements réveillent mon intelligence humaine. C'est pour ça que je suis face à quelqu'un d'intelligent. Quand je suis face au Christ. Quand je suis face à la parole de Dieu, quand je suis face au sacrement. Mais ce réveil de l'intelligence, et je comprends que ce que Dieu me dit est cohérent, c'est crédible. Ça, c'est la dimension de, si vous voulez, c'est le premier effet de la parole de Dieu. Mais ensuite, la foi ne consiste pas à considérer que ce que Dieu me dit est crédible. Ça consiste à ce que mon intelligence, à travers ce qu'il me dit, rejoigne le mystère. Alors ce qui est très beau, c'est que dans les sacrements et dans la parole de Dieu, je dépasse la parole de Dieu pour rejoindre le mystère même de Dieu. Je dépasse les sacrements pour rejoindre le mystère même de Dieu. Mais dans le Christ, la médiation et le terme sont un. C'est ça qui est unique au mystère du Christ. Le médiateur et le terme ne font qu'un. Si vous voulez, ce qui est unique, c'est que l'humanité du Christ s'adresse à la fois à mon intelligence comme la parole de Dieu. Les paroles du Christ s'adressent à mon intelligence dans son souci d'objectivité. Mais la personne, l'humanité du Christ s'adresse aussi à mon cœur, comme les sacrements. Vous voyez, c'est ça qui est unique, c'est que il n'y a que l'humanité du Christ qui puisse à la fois synthétiser ce que la médiation de la parole, la médiation des sacrements, et m'unir immédiatement au terme. Oui, parce que la parole et les sacrements, d'une certaine manière, ils existent dans l'Ancien Testament. Pas les sacrements à la manière de la Nouvelle Alliance, mais les signes, ils existent dans l'Ancien Testament. La parole aussi, elle existe dans l'Ancien Testament. Donc le propre de ma foi chrétienne, c'est que Dieu devient lui-même le médiateur. À travers l'humanité du Christ, et donc la médiation unique du christianisme, c'est l'humanité du Christ. Que la parole de Dieu m'aide à mieux découvrir, que les sacrements m'aident à mieux découvrir. Oui, je dirais d'une certaine manière, la foi chrétienne, entre guillemets, il faut faire attention, s'attache moins à la parole de Dieu et aux sacrements qu'à la personne du Christ. Plus exactement, elle ne s'attache à la parole de Dieu et aux sacrements que pour la personne du Christ. C'est-à-dire qu'au sens strict, je ne peux pas dire que je travaille simplement sur la parole de Dieu. Ce n'est pas juste. Je travaille sur la parole de Dieu liée au mystère du Christ. Et je reçois et je vis des sacrements liés au mystère du Christ. Sinon, ma foi n'est pas chrétienne. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas chrétienne? Ça veut dire qu'elle ne pourra pas parcourir pleinement, elle ne pourra pas être pleinement contemplative. Si je reste au niveau de la parole et des sacrements, ce qu'on fait souvent dans l'Église, ce que les chrétiens font souvent, qui est de rester du côté de la cohérence de l'enseignement. Parce que l'enseignement de l'Église, c'est d'expliciter la parole de Dieu. Si je reste au niveau des sacrements et de la parole de Dieu, presque je peux être catholique sans être chrétien. Le propre de la foi chrétienne, c'est qu'elle passe par le mystère du Christ. Ça, c'est important de voir que la médiation n'est pas plénière tant qu'il n'y a pas le mystère de l'incarnation. Il suffisait pas que Dieu me dise qui il est. Il suffisait pas que Dieu me donne des signes de ce qu'il est. Il fallait, comme disent les pères, qu'il devienne ce que nous sommes. C'était notre seule manière de contempler pleinement ce qu'il est, et que notre intelligence adhère de tout ce qu'elle est à son mystère. Alors, c'est important de voir que dans cette médiation, c'est l'amour qui est la clé. C'est pas à cause de la crédibilité que j'adhère. La crédibilité, ça réveille mon intelligence, mais c'est pas ça qui me fait adhérer. C'est pas ça qui me fait vivre, plus exactement. Ce qui me fait vivre, c'est l'amour. C'est l'amour qui met mon intelligence en Dieu. Cet amour que je reçois de Dieu. Oui, c'est pour ça que je dirais que la lumière, elle est là, la lumière, et elle est au terme, la lumière. Et l'amour est au centre. Et ça, c'est important que je sache que c'est pas l'intelligence dans son, vous voyez, c'est pas l'intelligence en dehors de l'amour qui peut adhérer à la foi. Ça n'est que sous la motion de l'amour que je vais jusqu'au bout de ce chemin de l'intelligence. Sinon, je m'arrête à mi-course. Et c'est là que la dimension symbolique de la parole de Dieu et des sacrements devient très importante. Pourquoi ? Parce que le mystère de Dieu, le mystère trinitaire, c'est un mystère personnel. Encore une fois, ce n'est pas la solution intellectuelle à un problème. La manière dont Dieu est la vérité, c'est comme personne. Mais c'est pas abstrait, Dieu n'est pas abstrait. Et ma connaissance objective implique une abstraction. Et c'est très important de voir que la dimension symbolique de la parole de Dieu. Parce que ce qui est impressionnant, c'est une fois qu'on a dit ça, pourquoi, encore une fois, Dieu ne nous a-t-il pas laissé, en quelques pages, un traité de théologie parfait, qui nous donne le contenu objectif parfait de ce qu'il est? Pourquoi s'est-il fatigué de passer par des gens comme Amos, Isaïe, Jérémie, qui sont des gens qui, pour le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas une logique théologique qui est absolument rigoureuse? Pourquoi est-ce qu'il a choisi quatre apôtres auxquels il a rien dicté en plus? Pourquoi est-ce qu'il y en a quatre qui ne disent pas toujours la même chose? Et souvent, on a l'impression que c'est pas cohérent à première lecture. Pourquoi est-ce qu'il a pris l'Apocalypse, qui est compliqué à loisir? Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pris un langage plus clair? On doit se poser la question. Si c'était pour qu'on le contemple, il suffisait qu'il nous donne, vous voyez, un résumé. Alors, c'est ce qu'a essayé de faire l'Église en nous donnant le credo. Mais le credo ne remplace pas la parole de Dieu. Et j'ai à me demander pourquoi Dieu ne nous a pas donné le credo. Pourquoi c'est l'Église, vous voyez, qui l'a donné comme petite marche, comme rappel. Et puis pourquoi c'est si gros aussi? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'histoires? Pourquoi? C'est vrai, quand vous aurez lu toute l'Écriture, vous aurez de la chance c'est de lire tout attentivement, vous verrez qu'il y a des quantités de choses incroyables. Pourquoi est-ce que c'est si complexe? De temps en temps, on doit se poser la question. Alors que Dieu est simple.
Alors on va dire c'est l'homme qui avait besoin, et donc il y a des choses en fait qui servent à rien, mais c'est par souvenir pour nos ancêtres, par respect pour eux. Ils ont fait des efforts vénérables, donc on compile. Du côté de l'intelligence, c'est vrai. Si l'homme n'était qu'esprit, si l'homme n'était qu'intelligence, on ne comprendrait pas. Et s'il s'agissait simplement de comprendre quelque chose, on ne comprendrait pas pourquoi est-ce que la parole de Dieu est complexe et puis pourquoi Dieu se sert des sacrements. C'est obscur, les sacrements. Vous plongez un enfant dans l'eau et vous croyez qu'il reçoit la grâce de Dieu. C'est le moins qu'on puisse dire, si ce n'est pas lumineux pour l'intelligence. C'est même pas impressionnant. Sauf qu'il crie, mais c'est pas impressionnant. On aurait pu faire des choses plus impressionnantes. Plus impressionnantes qui nous aident mieux à croire. Et l'Eucharistie, c'est le sommet, parce que c'est la pauvreté la plus grande du côté des signes. Non seulement c'est quotidien, mais en plus c'est du pain. C'est ce qu'il y a de moins impressionnant du côté symbolique. C'est ce qu'il y a de plus commun. Et donc on doit se demander, vous voyez, Et en fait, la clé, c'est ça, c'est que la manière dont j'adhère à Dieu, c'est par l'amour. Et que précisément, ce qui m'aide à aimer, la dimension symbolique de l'Écriture, elle est là pour m'aider à aimer. Les sacrements sont là pour m'aider à aimer. Le contenu est présent. Et on va voir que c'est le travail de la théologie, de dégager le contenu. Mais c'est une chose de dégager la signification de l'Écriture, c'est autre chose d'en vivre. Et c'est l'amour qui fait vivre mon intelligence en Dieu. Et pour ça, il ne suffit pas que Dieu me donne des informations, il faut qu'il me parle, vous voyez ? Il faut qu'il soit là. Et ce par quoi Dieu se rend présent à nous, c'est précisément la dimension symbolique dans la parole de Dieu, le signe dans le sacrement, et l'humanité du Christ dans l'incarnation. Ou si vous voulez, pour que toute notre personne, pour que tout ce que nous sommes passe en Dieu, il fallait que Dieu prenne tout ce que nous sommes. Il fallait qu'il assume tout ce que nous sommes. Et c'est important de voir que cette complexité de l'Écriture, cette complexité des sacrements, et cette complexité du mystère de l'incarnation, elle correspond à notre complexité. C'est Dieu qui prend possession de tout ce que nous sommes. Et comme on est complexe, ben il prend le temps. C'est pour ça que les pères de l'Église sont passionnés à la lecture de l'Écriture, parce qu'ils voient bien que l'Écriture, elle parcourt toutes les situations humaines et toutes les dimensions de la personne. Dans l'Écriture, les sacrements, et évidemment dans le mystère du Christ, tout ce qu'est l'homme et tout ce qu'il vit, non seulement est regardé dans la lumière de Dieu, mais est appelé à passer en Dieu. C'est pour ça que la foi, même si, encore une fois, on a vu que la foi, c'est l'adhésion de mon intelligence. Mon intelligence, elle est inséparable du reste de ma personne. Et la foi, ça ne consiste pas simplement à adhérer à la lumière. Ça consiste, comme dit saint Jean, à marcher dans la lumière. Quand on marche, on est tout entier, on ne marche pas dans sa tête. Sauf quand on est fatigué. Normalement, c'est très beau cette image de marcher dans la lumière. Comment est-ce que toute ma vie peut entrer dans la lumière de Dieu ? Pas simplement être guidé par la lumière de Dieu. Je ne suis pas fait pour être simplement guidé par la lumière de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on était guidé par la lumière de Dieu. Et la grâce, c'est pas simplement un phare, la grâce. La grâce, c'est Dieu qui se donne à moi. Et donc, tout ce que je suis est appelé à passer en Dieu, à vivre en lui, demeurer en mon amour. Il n'a pas dit que votre amour demeure dans le mien, que votre volonté demeure en moi, que votre intelligence demeure en moi. Il a dit demeurer, ça concerne toute la personne. C'est pour ça que la foi, au sens strict, c'est un acte de l'intelligence. Mais la foi au sens large, c'est l'adhésion de toute ma personne par mon intelligence à Dieu. Vous voyez ce qui n'est pas comment vous dire. Mon intelligence devient à ce moment-là la porte par laquelle, la foi devient la porte par laquelle j'entre en Dieu, dans toute ma personne. Et pour ça, j'ai besoin d'être guidé. Et c'est pour ça que Dieu me donne un langage symbolique. Et c'est pour ça que Dieu me donne les sacrements. Et c'est pour ça que Dieu me donne l'humanité du Christ. C'est pour que toute ma personne soit attirée par le mystère de Dieu. Et c'est parce que nous sommes une intelligence unie à un corps, parce que nous sommes une personne humaine, que Dieu nous parle un langage qui non seulement a quelque chose d'objectif, mais a quelque chose de symbolique. Vous voyez, l'aspect symbolique, l'aspect de l'image, l'aspect du signe, l'aspect de l'incarnation du Christ, elle est pour que notre foi, elle s'incarne pratiquement. C'est l'aspect pratique. Pour que notre intelligence nous fasse entrer pratiquement en Dieu. C'est pour ça qu'on dit marcher dans la lumière. Et que c'est ça qui est mystérieux, si vous voulez, que la lumière de Dieu, ou plus exactement Dieu qui est lumière, non pas remplace mon intelligence, mais que je vive de la lumière de Dieu à sa mesure à lui. Humainement, vous comprenez bien que l'opération de l'intelligence, elle est limitée. Il n'y a qu'une partie de moi-même qui est mon intelligence. Le reste, ce n'est pas mon intelligence. En Dieu, tout est lumière. Et j'en peux rien, mais c'est comme ça. Si la grâce de Dieu, c'est le don de Dieu, je suis appelé à ce que toute ma personne devienne lumière. Quand Jésus dit « Devenez des fils de la lumière », si la lumière avait des fils, ils seraient lumière dans leur personne. Et la grâce chrétienne, c'est ça. C'est de devenir lumière dans sa personne, pas simplement dans son intelligence, ni dans son intention. Je dirais « Ma vie doit devenir lumière ». C'est ça le mystère du Christ. Si le Christ est le Verbe de Dieu, vivre de la même vie que lui, c'est devenir lumière. Donc si vous voulez, l'intelligence c'est le point de contact, mais après ça, ça doit tout prendre. Alors on ne va pas le regarder là, mais c'est possible, parce que mon intelligence, elle est unie à tout ce que je fais. C'est pour ça que j'ai pris le temps de voir quel était ce qu'il y avait de plus fondamental. Pour voir que mon intelligence, elle est au cœur de moi-même. Et que si je n'en vis pas, c'est que je vis à côté de mes chaussures, c'est que je ne vis pas dans ce que je suis. Mais mon intelligence, elle est... Il n'y a rien qui soit d'une certaine manière en dehors de la présence de l'intelligence. Et donc c'est ça qui rend possible la présence de la lumière de Dieu, et même la présence de la personne du Verbe de Dieu dans toute ma vie. Je vous dis, réfléchissez sur cette parole « Devenez les fils de lumière ». Il n'y a qu'un fils de la lumière, c'est celui qui est lumière, né de la lumière, qui est le Verbe de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de voir que la mesure de la foi, c'est le mystère du Verbe de Dieu. La mesure de la foi, c'est pas déjà que j'ai fait l'effort héroïque de croire ce que Dieu me dit, même si j'y comprends rien et même si ça me met dans des situations pas possibles. Vous voyez, je sais pas comment vous dire, mais une fois que j'ai accepté, je peux plus m'arrêter à mi-course. Ça se gère pas, la lumière divine. Vous voyez, la crédibilité, ça se gère. La croyance, bon, j'y crois plus ou moins selon les moments, selon le fait que ça me dérange ou pas. Déjà, l'objectivité de la réalité, c'est plus dérangeant. Mais la lumière de Dieu, c'est complètement dérangeant. Et c'est important de voir que l'acte de foi est quelque chose, vous voyez, qui m'envahit plus que ça ne me porte vers quelque chose. C'est l'invasion de la lumière divine, si vous voulez, l'acte de foi. Alors, ça se vit dans l'obscurité, on est tout à fait d'accord. Et ça se voit pas qu'on est des fils de lumière. Ou ça devrait se voir. C'est vrai, au moins dans la charité fraternelle, ça devrait se voir. Que notre frère qui a la foi et que nous qui avons la foi, ça se voit pas qu'on est fils de lumière, c'est pas normal. On n'est pas chrétien au sens du Christ. C'est pas parce qu'on n'en est pas capable. De toute façon, on n'en est pas capable. Mais le don de Dieu me donne précisément de vivre ce dont je suis complètement incapable, puisque c'est un don. Donc vous voyez, c'est important que l'épreuve de la foi ne vienne pas mettre une mesure ou une limite à ce que je reçois. Et de dire, c'est déjà suffisamment dur d'y croire, si en plus il faut que je vive dans la lumière de Dieu, il ne faut pas exagérer. Mais si, il faut exagérer. Et comprendre que la... C'est pour ça que si la foi, ce que dira le théologien, si la foi est faite pour me préparer à la vision béatifique, parce que c'est pas fait pour autre chose. La foi, c'est pas simplement Dieu qui m'embête à vivre 80 ans sur terre, à rien voir du tout, pour me révéler à la fin, en fait, ce qu'est son mystère. C'est fait pour que je puisse, dès cette terre, commencer à vivre en lui. Donc autant que je ne perde pas de temps. De toute façon, il faudra entrer dans cette lumière. Enfin, si je suis d'accord. Et pour y entrer, il faudra que tout soit rempli par la lumière de Dieu. Il faudra que tout y passe, si vous voulez. Et donc, autant le vivre dès maintenant. Et je crois que c'est important de voir que c'est ça la mesure de ma foi. Et que l'épreuve de la foi n'a pour but que de me faire lâcher prise par rapport à ma compréhension. Et que progressivement, la lumière de ce qu'est Dieu devienne plus ma lumière que moi-même. De la manière la plus concrète qui soit. Y compris pour ramasser des épingles dans les couloirs, pour prendre l'exemple de la petite Thérèse d'enfant Jésus. Parce qu'il n'y a rien qui n'est en dehors de mon intelligence, dans mes actions humaines. Tout. Vous voyez, Dieu n'est pas une espèce de problème terminal auquel on réfléchira plus tard ou dans les moments très importants. Si c'est quelqu'un, il éclaire immédiatement chacun de mes actes. Et précisément, l'acte de foi est ce par quoi j'accueille ce qu'est Dieu comme lumière dans ma vie la plus concrète qui soit. Alors qu'il y a des moments où je fais un effort pour le faire, ça s'appelle l'oraison. Mais c'est le moment, si je le fais plus intensément à ce moment-là, c'est pour que ça soit tout le temps. Alors maintenant, si j'essaye de voir dans cette lumière-là, quel est le travail de la théologie ? Le travail de la théologie, ça va consister à apprendre à recevoir, vous voyez, à parcourir tous ces chemins que Dieu me donne à parcourir. Ça va être la coopération que j'apporte à cette illumination de Dieu. C'est d'abord comme ça qu'il faut le voir. Le travail de la théologie, c'est de configurer mon intelligence à la lumière. C'est de nettoyer les vitres, quoi. De déboucher les tuyaux, enfin, c'est de remettre la machine à peu près à neuf. Enfin, de laisser la grâce de Dieu remettre la machine à neuf. Pour qu'au lieu de jouer un son cacophonique, la lumière puisse briller, vous voyez, de manière harmonique. Qu'elle puisse porter ses fruits. La théologie, c'est pour permettre à la lumière de porter des fruits en nous. Ça n'a pas du tout pour but d'abord d'enseigner. Ni même de savoir quelque chose. Parce que plus ça va, moins on va savoir en théologie. Plus on va contempler, moins on saura. Parce que la réalité remplacera ce qu'on sait. Donc l'effet de la théologie, c'est de me donner une soif de plus en plus grande de la lumière. Et coopérer à ce don de Dieu, me configurer à cette lumière de Dieu, c'est d'essayer d'approcher selon tous mes moyens le mystère du Christ à travers la parole de Dieu et les sacrements. Alors, c'est vrai que je peux y mettre tous mes moyens. Le Christ, je peux l'aborder, je peux étudier l'Évangile, même selon des méthodes scientifiques. Selon des méthodes de lecture de textes scientifiques, selon des méthodes historiques, selon des méthodes critiques, selon même des méthodes sociologiques, même psychologiques. Le tout, c'est que je sache, vous voyez, quelle est la distance qu'il y a entre le type de connaissance dont je me sers pour étudier l'évangile et le mystère du Christ. Vous voyez, tout l'ordre qu'on a vu entre les différents types de connaissances. J'ai le droit de me servir de tous les types de connaissances. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une forme de connaissance qui soit exclue du mystère de Dieu. Mais selon l'ordre. C'est-à-dire que ma foi ne va pas être mesurée par la connaissance physique, de physique nucléaire. Vous voyez, ma croyance, ma foi dans le mystère de la Genèse ne va pas être mesurée par ma physique nucléaire. Donc le Big Bang, je suis désolé, mais ça n'a rien à voir avec l'acte de foi dans la création du monde. C'est très important le Big Bang. Et c'est la manière dont je mets ma foi, plus exactement, c'est la manière dont la science va rencontrer certains problèmes posés par la foi. Mais ce n'est pas la science qui va me servir à croire. Oui, c'est important de la place qu'il y a entre les différents types de connaissances, de le respecter à l'intérieur par rapport à ma foi. Et de voir qu'il y a des connaissances qui n'éclairent pas l'évangile, mais qui sont latérales, vous voyez, qui sont secondaires, à travers lesquelles je peux lire l'évangile, mais qui ne m'apportent rien au plan strictement humain dans la lecture de l'évangile. Et puis, il y a des lectures, il y a une mise au service de mon intelligence scientifique ou autre, qui m'oblige à mieux comprendre l'évangile. C'est sûr que quand vous lisez de manière psychanalytique l'évangile, ça vous oblige à la lire beaucoup plus intelligemment après. Parce que ça a mis en lumière certaines choses, et ça vous oblige à comprendre beaucoup plus profondément ce qu'il y a de juste et ce qu'il y a de limité dans ce regard-là. Encore faut-il avoir le moyen, vous voyez, d'approfondir son regard. Donc le regard scientifique notamment m'oblige à être plus intelligent. Mais ce n'est pas la science qui me permet de croire plus. Vous voyez, ce qu'on a vu sur la connaissance scientifique ne me donne pas une connaissance immédiate du réel. Mais elle oblige ma connaissance immédiate à être plus forte. Un exemple tout bête, c'est la lumière. Réfléchissez scientifiquement sur la lumière, ça ne vous dit pas du tout ce qu'est la lumière. Un artiste éclatera de rire si vous lui dites que la lumière, c'est des petites particules. Un peintre, ça le fera rire aux éclats. Il aura raison. Parce que la lumière, c'est pas du tout des petites particules. Ça, c'est la manière scientifique dont j'explique le phénomène que j'observe. Mais la lumière, ça n'est pas ça. Ça, c'est un des moyens d'analyse que j'ai sur ce phénomène qu'est la lumière. Je ne peux pas réduire un tableau de Van Gogh, vous voyez, à une variation lumineuse. Si vous trouvez ça beau, ce n'est pas simplement parce qu'il y a une équation entre les différentes ondes de lumière. De la même manière que le corps humain est absolument irréductible à ce que la médecine m'en dit. Le corps humain, ce n'est pas un système digestif, plus un système sanguin, plus un système nerveux, le tout avec une certaine quantité d'os et de tissus. Ça ne vous donne pas un corps humain. Au mieux, ça vous donnera un cadavre, mais ça vous donnera pas un corps humain. Et donc, c'est important de situer la connaissance scientifique par rapport à la connaissance humaine pour voir qu'il y a des connaissances qui ne sont que latérales, vous voyez, qui ne sont que secondaires par rapport à ma connaissance humaine. Et que quand je les mets au service de la foi, elles doivent garder ce côté, elles sont encore plus latérales. Quand je me sers de l'histoire, de la géographie, de la sociologie, de la psychologie, de la physique, de la chimie, ça c'est évident. Quand je me sers même de la connaissance artistique. Et c'est pour ça que le travail de la théologie à proprement parler, ça sera de se servir de la connaissance de sagesse, de la connaissance personnelle, pour comprendre l'intelligence de la parole de Dieu et des sacrements. Alors en gros, il y aura deux grands axes. L'un qui consiste à essayer de comprendre la pédagogie affective de Dieu. Et l'autre qui consiste à comprendre le contenu de ce que Dieu me donne. Vous voyez, c'est les deux extrêmes. Dans un cas, vous aurez ce qu'on appelle la théologie scientifique ou la théologie dogmatique, qui est d'essayer de savoir qu'est-ce que Dieu me dit sur lui. Ce que Dieu me dit sur lui, ce n'est pas simplement en lisant attentivement les textes que je vais le découvrir. Mais c'est en lisant les textes à l'intérieur de la lumière de Dieu. Ou si vous voulez, en lisant les textes dans la lumière de Dieu. Donc en lisant les textes dans la foi. C'est-à-dire quand je lis les textes dans la foi, je ne les lis plus, je les écoute. Quand vous êtes en présence de quelqu'un, vous ne lisez pas ce qu'il vous a écrit. Vous l'écoutez. Je ne sais pas comment vous faites, mais... Quand quelqu'un vous a écrit une lettre et que vous le rencontrez, si vous lisez sa lettre devant lui, c'est très vexant. Et donc si... Et quand vous lisez l'écriture, si vous lisez l'écriture en présence de Dieu au lieu d'écouter ce qu'il vous dit, c'est une grossièreté énorme. Et si vous la lisez en dehors de sa présence, vous perdez votre temps parce que vous ne pourrez rien y comprendre. Point de vue de la foi. Donc quand je lis l'écriture, c'est pour écouter à travers le texte. C'est pour ça qu'autrefois on ne lisait pas. C'est pas parce qu'on voulait interdire aux laïcs qui n'étaient pas capables de lire la parole de Dieu et qui allaient raconter des hérésies. C'est pour qu'on l'entende par quelqu'un qui représentait le Christ. Alors c'est très bien, c'est que maintenant on a le livre. Le tout, c'est qu'on sache s'en servir. Et donc qu'on écoute ce que Dieu me dit. Ça change tout d'ailleurs. Hein. On n'écoute plus du tout. Notre approche de la parole de Dieu est complètement changée à partir du moment où on écoute. Parce qu'il n'y a pas besoin qu'il y en ait beaucoup. Puis on cherche plus. Quand vous écoutez quelqu'un que vous aimez, vous ne cherchez pas d'abord les informations. Vous ne cherchez pas à dégager les informations présentes dans le texte. S'il vous parle, vous l'écoutez. Et vous l'écoutez lui, à la limite, plus que ce qu'il vous dit. Ou tout ce qu'il vous dit, c'est pour le découvrir lui. Vous voyez, je sais pas, il y a une intelligence aimante et très perspicace de la parole de quelqu'un qui me parle que j'ai appliqué à la parole de Dieu. Je ne peux pas lire la parole de Dieu ni comme le journal, ni comme un ouvrage ni même comme un ouvrage de philosophie, comme un ouvrage très intelligent. Et donc c'est dans la foi que je vais apprendre à découvrir ce que Dieu me dit sur ce qu'il est, en acceptant qu'il y a des paroles qu'on garde longtemps avant qu'elles s'éclairent, ce qui n'est pas gênant puisqu'il est là. C'est pas gênant que vous ne compreniez pas ce que l'autre vous dit. Si la seule chose que vous comprenez, c'est qu'il vous aime et qu'il vous expliquera un jour. Mais c'est très important parce que si vous laissez tomber tout ce que vous ne comprenez pas, ben vous n'allez pas lire grand-chose dans l'écriture. Puis surtout, il y a plein de choses que vous ne découvrirez jamais. Si vous attendez de les comprendre pour les regarder, vous voyez, c'est contradictoire. Donc il faut garder, il y a beaucoup de choses qu'on doit garder sans les comprendre. Je dis, ça c'est la manière pratique dont on met cette intelligence personnelle au service de la foi. Si on était aussi intelligent pour Dieu qu'on est capable par moment de l'être pour ceux qu'on aime. Et donc ça sera, si vous voulez, il y aura tout un développement de la théologie qui sera très important, qui est de dégager ce qu'il me dit. Puis ensuite il y a la manière dont il me le dit. C'est une chose que l'autre me dise qu'il m'aime. Et Dieu nous dit que ça à travers toute l'écriture. Il nous dit qui il est et qui nous aime. C'est tout. Alors c'est dit de plein de manières différentes. Vous savez, c'est dans Isaïe où il y a un grand passage qui finit par « Je t'aime ». C'est un des seuls endroits où Dieu dit « Je t'aime » avec la personne. Et au fond, Dieu dit que ça dans toute l'écriture. Mais ce qui est important, c'est la manière dont il le dit. C'est ça le symbole. Parce que c'est aussi important la manière dont on nous le dit que le fait qu'on nous le dit. Une fois qu'on nous l'a dit une fois, ben on le sait. Mais si vous vous contentez de l'avoir entendu une fois, il y a peu de chances que ça grandisse. Et donc c'est important de voir que la manière dont Dieu se révèle à nous et se donne à nous est aussi importante que ce qu'il est. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'économie divine. Et c'est vrai que jusque-là dans l'Église, enfin chez les pères, on a été attentifs à ça. Vous voyez, à la pédagogie de Dieu, qui est beaucoup plus qu'une pédagogie d'ailleurs, c'est la manière dont Dieu prend le temps de nous aimer. Les pères de l'Église ont été attentifs à ça, alors que le Moyen-Âge a beaucoup plus été attentif, enfin surtout la fin du Moyen-Âge, à ce que Dieu nous disait. Surtout qu'en plus, on a progressivement été pas d'accord avec d'autres sur ce que Dieu nous disait, donc on s'est défendu. Et on en a oublié la manière dont il nous le disait. Vous voyez, on s'est souvenu du contenu, mais on a oublié l'intonation de la voix. Et quand vous portez plus d'attention à l'intonation de la voix, c'est fini, la personne n'est plus là. Et ce que le concile nous invite à redécouvrir, c'est en même temps le contenu, parce qu'il faut. Le danger inverse, c'est de quitter le contenu, c'est de dire, mais ce que Dieu nous dit, de toute façon, on n'y comprend rien. Donc ça ne sert à rien d'essayer de le chercher. L'important, c'est la manière dont il nous aime. Là, on va rester dans la pédagogie, voyons. On va regarder la pastorale divine. Et on ne regardera que la pastorale divine. Mais il n'y aura plus d'aspect contemplatif. On va regarder la miséricorde de Dieu, la manière dont il nous aime. Et on oubliera qu'il ne se contente pas de nous aimer, il nous révèle qui il est. Parce qu'il attend qu'on lui réponde. Et on ne peut pas lui répondre s'il ne nous révèle pas qui il est. Mais inversement, je ne peux pas regarder uniquement le contenu. Et donc ce que l'Église nous invite aujourd'hui à redécouvrir, d'une manière plus mûre que chez les pères de l'Église, parce que le contenu de la foi, il a été beaucoup plus mis en lumière. C'est à la fois ce que Dieu me dit, ce que Dieu me révèle, qui il est, et la manière dont il me le révèle. Vous voyez, les sacrements me révèlent beaucoup plus comment Dieu m'aime que ce qu'il me dit. Quand Jésus dit « Je suis le Fils de Dieu », c'est ce qu'il est qui est révélé en premier lieu. Mais quand Jésus se donne comme pain, c'est sa manière d'aimer qui nous est révélée en premier lieu. Sans les séparer. Et donc, c'est important de voir que le travail de la théologie, ça sera présentement de mettre, vous voyez, mon intelligence contemplative et mon intelligence affective au service et de manière sans cesse coopérante. Au service de ce que, plus que de ce que Dieu me dit, de ce qu'il est et de sa révélation. Pour que toutes les dimensions de mon intelligence, de mon cœur et par là de ma personne s'engagent en Dieu.
Sans trop de difficultés.
On a dû vous passer un texte du Concile Vatican II sur justement la révélation. Je me suis dit que c'est une bonne manière de travailler le sujet que de voir ce que le Concile lui-même en dit. Parce que souvent on parle des textes du Concile, mais très rarement on les lit. Alors autant prendre cette occasion pour les lire. Surtout que le Concile dit au numéro 1 que, suivant les traces des conciles de Trente et de Vatican, il entend proposer ici la doctrine véritable sur la révélation divine. Donc, vous voyez, je crois que c'est intéressant de travailler avec lui ce qui est dit de la révélation. Avant, essayons de situer un peu la question. Quand on dit révélation, on peut l'entendre de différents moyens. Soit on entend de ce qui est révélé, soit on l'entend de l'acte de révéler. Donc, quand on parle de la révélation, voilà les données de la révélation, on pense tout de suite au credo. Ce qui a été révélé, ce sont les données auxquelles je dois croire. Mais ici, on regarde davantage l'action par laquelle Dieu révèle. On regarde davantage cette initiative de Dieu et les moyens que Dieu a pris pour se révéler. Alors, il faut m'arrêter hein, si ça n'accroche pas, si il y a des difficultés de vocabulaire. Si, les questions peuvent aider à préciser. Qu'est-ce qui distinguerait dans notre regard hein, la religion, prenons par exemple le bouddhisme, comment on dirait pas une religion, certains diraient que c'est plutôt une philosophie, une religion païenne, pour prendre un exemple plus précis, de la religion chrétienne. qu'est-ce qui distinguerait à notre regard, n'est-ce pas, une religion qui n'est pas chrétienne d'une autre? Comment vous la distingueriez? Vous parleriez du Christ, par exemple. Mais plus fondamentalement, quand on parle de religion, on parle du lien religaré entre l'homme et Dieu. Donc, la religion, c'est la manière dont l'homme se tourne vers Dieu. Donc, l'homme qui se sait créé, qui se découvre créé, se tourne vers son Créateur, et c'est presque une nécessité de justice, c'est de rendre à son Créateur ce qui lui est dû, n'est-ce pas ? Et c'est ce qu'on dirait l'adoration, par lequel il se remet dans les mains de son Créateur. Vous voyez, c'est l'homme qui se tourne vers Dieu et lui rend une dette, n'est-ce pas ? Ça, c'est la religion fondamentale, on pourrait dire. La religion au sens purement naturel. C'est naturel d'être un homme religieux. Hein, Saint Paul dira que les hommes sont impardonnables de ne pas rendre à Dieu un culte, puisque l'ayant connu comme créateur, il lui devait le culte qui est dû au créateur. C'est Saint Paul dans la lettre aux Romains. Vous voyez le passage auquel je fais allusion, au chapitre 1. Aussi Dieu, au verset 20, ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables, puisque ayant connu Dieu comme créateur, ils ne lui ont rendu comme Dieu ni gloire ni action de grâce. Quand on connaît Dieu comme son créateur, on lui doit gloire et action de grâce. Mais ça, c'est une religion naturelle. Quel est le propre de la religion chrétienne? Toute religion cherche à rendre un culte à Dieu comme créateur. Qu'est-ce qui fait le propre de la religion chrétienne? C'est que la connaissance que l'homme a de Dieu ne vient pas de lui, mais est un don de Dieu par révélation. Concrètement, nous croyons que Dieu s'est fait connaître, est rentré dans l'histoire des hommes, s'est manifesté, s'est fait connaître aux hommes tel qu'il est, pour que les hommes lui rendent un culte en esprit et vérité. Rappelez-vous ce que dit Jésus dans la Samaritaine. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous, vous adorez votre Créateur. Vous le connaissez comme Créateur, mais vous ne le connaissez pas. Nous, Juifs, nous adorons celui que nous connaissons, parce que lui-même s'est fait connaître. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit et vérité. Donc, Jésus distingue deux choses dans l'adoration. Ils adorent qui ? Ils adorent leur Créateur. Mais le Créateur, il peut être inconnu à ce Dieu inconnu, celui que je ne connais pas. Et il peut être connu. Connu parce que lui-même s'est fait connaître. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs, c'est pas seulement ceux qui adoreront le Dieu connu, c'est ceux qui l'adoreront en esprit et vérité. C'est la manière, n'est-ce pas ? L'adoration, la manière dont on adore. Alors, le chrétien, non seulement il connaît celui qu'il adore, mais il adore en esprit et vérité. C'est-à-dire, au fond, Dieu l'a sauvé, l'a guéri, et lui a donné l'esprit pour que Dieu puisse recevoir de lui une véritable adoration. Donc, si vous voulez, au sens, pour nous, il y a une triple adoration. Tout homme, s'il adore son Créateur, adore Dieu et le Dieu unique, parce qu'il n'est qu'un. Je me rappellerai toujours une des premières prédications où j'ai dit ça en pleine conférence, c'était à Nantes, et on m'a dit pas du tout. Les musulmans, par exemple, n'adorent pas le même Dieu. S'ils adorent leur Créateur, c'est le mien, c'est le même. C'est le même du côté de la réalité que j'adore. C'est la même personne, c'est le même Dieu. Mais comment le connaissent-ils ? Ça, c'est autre chose, la manière. Ils le connaissent comme inconnu ou ils le connaissent comme connu. Alors, ça va. Quelle est cette connaissance qu'ils ont de ce Dieu créateur ? Est-elle une connaissance qui vient des hommes ou est-elle une connaissance qui vient de Dieu ? Mais ça, c'est autre chose. Mais je peux très bien adorer mon Créateur, c'est-à-dire celui de qui je reçois tout mon être, sans vraiment le connaître. C'est-à-dire que je peux le connaître si je suis docile à l'Esprit Saint. Donc, cette connaissance, c'est le même Dieu que nous adorons. Mais nous l'adorons dans l'Esprit et la vérité. Et c'est ça qu'il faut que nous voyons. Donc, au fond, il y a, dans la religion chrétienne, il y a bien sûr le souhait et le désir qu'a l'homme d'adorer, mais il y a aussi ce qu'il y a de propre au christianisme, c'est que c'est Dieu lui-même qui s'est fait connaître, qui s'est manifesté, et qui nous a donné l'esprit pour adorer. Donc nous croyons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître Dieu, mais c'est lui qui nous l'a fait connaître. C'est ça la révélation. C'est l'action par laquelle Dieu se fait connaître. Mais en plus, que nous ne pouvons pas rendre à Dieu le culte qui lui est dû, parce que nous sommes pécheurs, et le pécheur ne peut pas être agréable à Dieu. Donc il faut commencer par qu'il soit sauvé, et ensuite parce que nous sommes créatures, et que Dieu veut être adoré en esprit et vérité, c'est-à-dire veut être adoré par des fils, et donc il faut qu'il fasse de nous des fils. Donc, nous reconnaissons que nous avons besoin que Dieu se fasse connaître, que nous avons besoin qu'il nous sauve, et que nous avons besoin qu'il nous donne cet esprit de fils qui nous permet d'adorer en esprit et vérité. Donc, vous voyez, ce qui est au cœur de la foi chrétienne, c'est la révélation. Nous croyons que Dieu s'est révélé. Alors, au fond, qu'est-ce que c'est que cette action de Dieu ? Comment s'est-il révélé ? Quels sont les moyens qu'il a pris pour se révéler ? C'est ça qu'on veut étudier maintenant. Si ça ne passe pas, vous m'arrêtez ? Alors, je vais lire avec vous, assez rapidement au début, mais comme... C'est surtout sur le premier chapitre qu'on va s'arrêter. Je crois que c'est bien que vous ayez ce texte, comme ça vous pouvez y revenir vous-même. Le préambule est intéressant, parce qu'au fond, il souligne deux points. Dans son audition religieuse et sa proclamation assurée de la parole de Dieu, le Saint-Concile adhère à ces paroles de Saint Jean, dans sa première lettre, « Nous vous annonçons la vie éternelle. » qui était auprès du Père et qui nous est apparu. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous et que votre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Vous voyez, au fond, il y en a qui n'ont pas de texte là, à donner. Au fond, il y a les trois points. Nous vous annonçons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est... Vous n'auriez pas pensé certainement à dire que la vie chrétienne, c'est la vie éternelle. Oui. La vie éternelle. Nous vous annonçons la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par la vie éternelle ? Qu'est-ce que vous diriez ? Dieu, c'est le vivant. C'est ça, la vie. Dieu, c'est la vie. Pour Saint Jean, c'est la vie. Nous vous annonçons la vie éternelle qui est apparue, qui était auprès du Père et qui est apparue. Voyez donc, l'objet de la révélation, Dieu lui-même, comme le vivant. C'est important aujourd'hui, puisqu'on est le jour des morts, de souligner ça. Que celui qui est en communion avec Dieu, il est vivant. L'objet de la révélation, c'est Dieu lui-même, le vivant. Le mode de cette révélation, c'est que la vie est apparue. Et la manière dont elle est transmise, nous vous l'annonçons. Je pense très important, parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a la vie qui est apparue. Et entre la vie qui est apparue et nous, il y en a qui ont transmis. Alors il va falloir regarder comment la vie est apparue et comment la révélation est transmise. Donc, avançons. Le but, afin que vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La finalité de la révélation, c'est la communion avec Dieu. Si Dieu se révèle, c'est pour que l'homme puisse rentrer en communion avec lui. Dieu se fait connaître et attire l'homme à la communion. Et une communion qui est non seulement avec Dieu, mais aussi avec tous ceux qui reçoivent cette révélation. C'est pourquoi, suivant les traces des conciles de Trente et de Vatican I, donc vous voyez, il ne s'agit pas d'opposer les conciles, il entend proposer la doctrine véritable sur la révélation et sur la transmission, afin que qu'à l'annonce du salut, le monde entier, en entendant croit, en croyant espère, et en espérant aime. Donc, vous voyez, la foi, l'espérance et la charité qui jaillissent de cette action de Dieu qui rentre dans l'histoire des hommes. On voit tout de suite que c'est notre réponse. La foi, l'espérance et la charité sont la réponse de l'homme à la révélation. Alors, on attaque surtout le numéro 2, là. Ça va être un peu plus serré. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté grâce auquel les hommes, par le Christ, Verbe fait chair, ont accès dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Donc, il a plu à Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, de se révéler en personne. Et ce que le Concile souligne au fond, c'est une pure gratuité de Dieu. Il a plu à Dieu. C'est une grâce. La révélation est un don gratuit de Dieu. Il n'était pas dû. C'est pas dû. Et la raison de cette révélation, de cette grâce, c'est sa sagesse et sa bonté. C'est pas seulement sa bonté, c'est aussi sa sagesse. Il y a un ordre de sagesse qui a fait que Dieu, créateur, se révèle. C'est un ordre de sagesse. Le Concile va essayer de le montrer. Donc, liberté de ce dessein de Dieu. Et vous savez ce que Saint Paul dit, justement, les Éphésiens étaient cités, n'est-ce pas ? Saint Paul dit dans la lettre aux Éphésiens que cet hymne qui est si beau, n'est-ce pas, où il bénit Dieu, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Et saint Paul va regarder toutes les bénédictions, toutes les manières dont Dieu nous bénit, c'est-à-dire nous dit du bien, c'est-à-dire nous fait du bien. Eh bien, il a déterminé par avance que nous serions pour lui des fils adoptifs. Dieu qui nous a créés, il a voulu faire de nous des fils. Ça, c'est dans sa sagesse. Mais il nous a fait connaître ce mystère de sa volonté. Parce que Dieu pourrait très bien voir sur nous ce dessein sans que nous le sachions. Dieu veut faire de tous les hommes ses fils. Et ça, que les hommes le sachent ou le sachent pas, c'est son intention. Et il prendra les moyens pour arriver à sa fin. Mais il a voulu que les hommes le connaissent. C'est pour ça que saint Paul dit au verset 9, il nous a fait connaître ce mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Vous voyez, au fond, du côté de Dieu, tous les hommes sont concernés. Mais du côté des hommes, tous les hommes ne le savent pas, ce dessein de Dieu. C'est pourquoi c'est une bénédiction, nous rendons grâce à Dieu de connaître ce dessein de Dieu sur les hommes. Parce que du coup, nous pouvons mieux y coopérer. Mais ce dessein que nul n'aurait pu découvrir tout seul. Parce que c'est une pure gratuité de Dieu. Je ne peux pas, à partir de la création, je ne peux pas, à partir de ma propre intelligence, vous avez dû voir ça hier, découvrir que Dieu veut faire de moi ses fils, de nous ses fils. Je ne peux pas. C'est Dieu qui me l'a fait connaître. Dans cette révélation, le Dieu invisible, c'est-à-dire que nul ne peut voir, s'adresse aux hommes en son immense amour ainsi qu'à des amis. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa vie. Alors là, c'est magnifique. Le Dieu invisible s'adresse aux hommes comme à des amis, de sorte qu'il s'entretient avec eux. Pour, voilà la finalité, les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Et donc, au fond, Dieu rentre dans l'histoire des hommes pour attirer l'homme à sa communion. Et voyez, il s'adresse, quand on étudie la manière dont le Concile a discuté ce texte, il y a des évêques qui avaient proposé qu'on mette, il s'adresse aux hommes comme à des fils. Et finalement, le Concile a dit non, à des amis. Que le propre de la révélation, c'est que Dieu se fait l'égal de l'homme. Il parle avec lui comme l'ami avec son ami. On cite Moïse, l'Exode, où Dieu, Moïse parlait avec Dieu visage à visage. Le texte juif dit bouche à bouche. Face à face, si vous voulez. Et il s'entretient avec eux. Donc, vous voyez, ce dessein de Dieu, voilà, c'est d'attirer, d'inviter les hommes à partager sa propre vie. Vous voyez, alors là, c'est pas possible de ce texte, il faut le recevoir dans la foi. Hein. On est chrétien, hein. La théologie, c'est la quête du croyant. Hein. Si on parlait à des païens, on ne pourrait pas prendre un texte comme ça. Mais nous qui croyons, alors nous recevons cet enseignement, vous voyez qu'on cite continuellement l'Écriture, et on accueille dans cet enseignement finalement ce à quoi la foi nous fait adhérer. C'est pourquoi on ne peut que rendre grâce, quand on lit un texte comme ça, du dessein de Dieu. Alors, une pareille économie de la révélation, économie, il ne faut pas entendre économique, économique, n'est-ce pas ? L'économie, c'est l'organisation. On parlera de l'économie du corps humain, par exemple. On parlera de l'économie trinitaire. On parlera de l'ordre qu'il y a à l'intérieur de la Trinité. Ça, c'est l'économie. Quand on parlera de l'économie du corps humain, on parlera de l'ordre qu'il y a entre les membres. Là, l'économie de la révélation, c'est-à-dire cet ordre implicite, qu'on va découvrir, cette organisation, cette économie, voilà. Comprend. Alors, on essaie de voir les éléments de cette économie. Des événements, des paroles intimement unies entre eux, de sorte que les œuvres réalisées par Dieu dans l'histoire du salut attestent et corroborent la doctrine et le sens indiqué par les paroles, tandis que les paroles profère les œuvres et éclaire le mystère qu'elles contiennent. Je parle du charabia, mais c'est extrêmement précis. L'économie de cette révélation, c'est-à-dire, maintenant, regardons, cette révélation, c'est un corps, c'est une organisation entre eux. Entre des événements et les paroles. La révélation implique des événements et des paroles. Gestis, le latin, hein, c'est, quand on dit gestis, il faudrait traduire presque la geste, vous savez. Quand on parle de la geste de Roland à Roncevaux, hein, les événements magnifiques, c'est pas simplement des actes ordinaires, hein, c'est des événements importants, des événements. Alors, ces événements et ces paroles sont organisés entre eux, c'est ça l'économie. Comment ? De sorte que les œuvres, réalisées par Dieu dans l'Ancien Testament, on parle des œuvres magnifiques, des merveilles, des mirabilia, les actes magnifiques de Dieu. Là où Dieu se manifeste, de sorte que les œuvres réalisées par Dieu dans l'histoire qui va devenir l'histoire du salut, donc c'est des actes historiques, c'est des actes par lesquels Dieu est rentré dans le temps et le lieu. C'est pas des mythes. C'est pas la gestice de roman, c'est pas un roman, c'est pas un mythe. Ce sont des actes par lesquels Dieu rentre dans l'histoire des hommes. Quand les Hébreux ont passé la mer Rouge, ils l'ont vraiment passé, hein, parce que s'ils n'avaient pas passé, les Égyptiens les auraient renvoyés en Égypte. Et ça, c'est un acte qui historiquement est unique, parce qu'on n'a jamais vu des esclaves se sauver entre eux. Vous ne trouvez nulle part ça. Eh bien, voilà un peuple d'esclaves qui a été sauvé par une action de Dieu. Alors là, ils ont tout de suite chanté, hein, le premier Magnificat de l'Ancien Testament, c'est la fille de Moïse, Moïse lui-même, hein, qui chante la victoire de Dieu. Mais ça c'était un acte. Hein. Ça, vous ne pouviez pas le leur faire contredire. Et vraiment, la mère les a sauvés. En tous les cas, comment ils sont passés, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'entre eux et les Égyptiens, il y a eu la mer. Vous voyez ? Et ça, ils ont été, Dieu est rentré dans leur histoire. C'est pour ça que c'est si important le passage à la mer Rouge pour le juif. Donc, les actes, les œuvres réalisées par Dieu dans l'histoire attestent et corroborent la doctrine, l'enseignement, hein, et le sens indiqué par les paroles. Tandis que les paroles profèrent, c'est pas très joli, hein, heureusement j'ai pas le texte, profèrent les œuvres, proclament les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. Donc, impossible de séparer les deux. La révélation, c'est des entrées de Dieu dans l'histoire des hommes, éclairées par des paroles. De sorte que les paroles manifestent le mystère révélé dans l'histoire, dans l'action de Dieu, le manifeste, et que les œuvres corroborent la doctrine. Ça va ? Vous voyez, ce qui est important, c'est de saisir que c'est tout un, c'est une économie, c'est une organisation extrêmement intime, de sorte qu'on ne peut pas séparer les membres entre eux, et que l'un se renvoie à l'autre. Donc, impossible de dire que, par exemple, la révélation, c'est la révélation d'une sagesse. Non. La révélation, c'est une entrée de Dieu dans l'histoire des hommes, accompagnée d'une parole et d'un enseignement. Alors, il faut insister, hein, sur l'aspect d'expérience historique. Toute révélation suppose une expérience historique. Vous voyez, contredire la dimension historique de la résurrection, pour prendre la question de la résurrection aujourd'hui, hein, c'est nier la révélation. Si le Christ, si historiquement, c'est-à-dire à un moment donné de l'histoire des hommes, le corps du Christ n'est pas ressuscité, à un moment donné, alors là, il n'y a pas révélation, il n'y a pas manifestation. Il faut la dimension historique. C'est une action de Dieu dans l'histoire des hommes. La profondeur de vérité que cette révélation manifeste, donc au fond, ce que toute œuvre et toute parole, alors c'est la vérité révélée. La profondeur de vérité que cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme resplendit pour nous dans le Christ qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. Donc, là où la révélation a sa, si vous voulez, a sa perfection, et là où elle est la plus manifeste, c'est dans le Christ comme homme dans l'histoire des hommes, qui s'adresse en tant que Dieu aux hommes. C'est l'homme et le Dieu. C'est l'homme et Dieu. Alors là, les événements et l'histoire, les événements et les paroles
sont rassemblés d'une façon parfaite et unique dans le Christ, qui est le Verbe fait chair. Le Verbe, la parole, fait chair. La parole et l'événement sont tout un dans le Christ. Parce que vous voyez, dans la mer Rouge, le passage de la mer Rouge, il y a une manifestation. On ne peut pas dire que tout ce passage est parole. Il n'y a pas une adéquation entre l'enseignement qui est Dieu qui sauve et montre aux hommes qu'il a sauvé son peuple, et puis l'acte. Tandis que dans le Christ, il y a une adéquation entre les œuvres et les paroles. Entre ce qu'il est et ce qu'il fait, et ce qu'il dit, c'est tout un. Donc, vous avez remarqué comment le Concile lit toujours révélation et salut. S'il se révèle, c'est pour nous inviter à partager sa propre vie. Et enfin, le dernier passage que nous venons de dire, la profondeur de vérité que cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme. Donc toute révélation, toute connaissance de Dieu est toujours une connaissance qui sauve, et toujours pour le salut. Resplendit dans le Christ qui est à la fois le médiateur et la plénitude. Donc le médiateur, c'est-à-dire celui dont Dieu se sert pour se faire connaître, et la plénitude, c'est-à-dire celui qui est la révélation. Vous voyez, il est à la fois celui qui révèle et celui qui est révélé. Le Christ en lui-même, il est Dieu le révélé et le révélateur, celui qui fait connaître Dieu. Comme dit saint Jean, une fois, nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître. Alors, donc ça c'est un peu, vous voyez, on avait le titre, c'est nature et objet de la révélation, au fond. Si on essaie de comprendre ce qu'est la révélation, d'après le Concile, c'est l'action de Dieu qui rentre dans l'histoire des hommes pour appeler l'homme à sa communion. Mais il n'y rentre pas d'une façon quelconque, il y rentre comme l'appelant comme à un ami. Ça, je crois très important, que si je veux, parce que si ma foi est une réponse à la révélation, donc au fond il faut que je commence par accueillir cette révélation pour elle-même, pour ce qu'elle est vraiment, d'où la nécessité de vraiment l'accueillir dans cet esprit comme l'ami reçoit son ami. Il y a une attitude, comment dirais-je, de docilité particulière qui est demandée à l'ami pour accueillir son ami. Est-ce qu'il y a des questions là ?
Oui. Pourtant, Jésus va faire de nous des enfants de Dieu.
Oui.
Donc, la filiation peut-être plus importante que l'amitié ?
C'est un autre ordre. Donc, vous avez compris la question. Est-ce qu'il vaut mieux être fils qu'être ami ? Ou ami que fils ? Tous les hommes sont appelés à être fils. Mais tous les hommes ne sont pas appelés à connaître ce dessein de Dieu et à être ses amis et à participer à cette révélation. Je vous appelle plus serviteur, mais ami, dit Jésus à ses apôtres. Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Donc, l'ami, c'est celui qui fait la même œuvre que l'ami. Il y a une œuvre que nous pouvons participer au Christ, c'est le témoignage, c'est l'annonce. Mais certes, pour être un ami, il faut d'abord être un fils. Vous voyez ? Tous les fils, tous les amis doivent être des fils, mais tous les fils ne sont pas des amis. Comprenez, dans ce sens. La révélation, c'est la manière dont Dieu m'attire comme un ami et me fait partager ce dessein qu'il a sur les hommes, sur tous les hommes. Tous les hommes n'ont pas accueilli la révélation, mais sur tous les hommes, le dessein de Dieu de salut doit se réaliser. Alors c'est pour ça qu'on va se poser la question, au fond, mais enfin, comment Dieu se révèle-t-il dans l'histoire, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau ? On s'arrête 5 minutes, je crois. Bon. Donc on se donne jusqu'à moins 20. Ça va ?